7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je vous propose un autre regard sur les vêtements que nous portons au quotidien ou que nous choisissons pour nous exprimer, pour faire passer un message. Depuis des mois, voilà que les masques en tissu ou en papier mangent la moitié de notre visage et ça nous semble désormais presque naturel. Il suffit qu'on sorte un matin sans le masque pour qu'on ait l'impression de sortir nu. Et c'est cette nudité nouvelle qui signe finalement une autre forme de contestation pour ceux qui veulent bien risquer une amende. Les gilets jaunes en France aussi sont des cris de colère. Les foulards verts en Argentine, désormais une victoire pour le droit à l'avortement. Une victoire aussi, le tailleur blanc de Kamala Harris, future vice-présidente des États-Unis. Une victoire contre Trump en novembre dernier, même si avec les événements du Capitole, on comprend que la victoire sera semée d'embûches. Alors, dans ce marasme de début d'année, nous revenons sur ces morceaux d'étoffe qui parlent et qui se décrètent symboles. On en parle avec un historien de la mode extrêmement savant. Bonjour Denis Brunat.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Vous avez publié plus de 500 pages, une histoire des modes et du vêtement chez Textuel, un livre qui a été très remarqué parce que extrêmement bien illustré, beaucoup d'explications, beaucoup de mise en perspective aussi dans ce livre qui commence au Moyen-Âge, hein, c'est ça ?
C'est ça, on commence vers 1320, 1330 environ. Ouais, ouais, ouais.
En fin d'émission également, un reportage de Raphaël Constant sur le recyclage ou comment deux start-up françaises préparent une nouvelle vie justement pour les masques jetables.
7 milliards de voisins
et la planète se barre.
Denis Brunat, peut-être un commentaire sur notre époque, une époque vertigineuse, y compris pour le vêtement, non ?
Oui, il est vrai que depuis le mois de mars dernier, avec l'expansion du Covid et des mesures, le rapport aux vêtements est un petit peu différent. D'abord, on l'a vu avec le premier confinement, à savoir que, étant donné qu'on apprenait le télétravail, par conséquent, on ne s'habillait plus véritablement pour travailler, puisqu'on restait chez soi. Et pour l'historien du vêtement, c'est particulièrement intéressant, parce que c'est une réponse à toutes celles et ceux qui vous disent que, après tout, le vêtement, c'est pas si important que cela, que les codes vestimentaires n'existent plus, ce qui est d'ailleurs une aberration, parce que tant que l'homme et la femme vivront en société, nous serons obligés de nous habiller et par conséquent, le vêtement restera un code.
Malgré une vie sociale au ralenti, on a toujours des codes vestimentaires.
On a toujours des codes vestimentaires, mais là, c'est vrai que les codes ont été bouleversés. Et d'ailleurs, c'est le propre de la vie d'un code. Et on a très bien vu qu'on ne mettait pas obligatoirement de chemise, pas de cravate, peut-être pas de tailleur pour rester à la maison.
Oui.
D'ailleurs, on a vu quelques petits posts amusants, notamment sur les réseaux sociaux des hommes qui suivaient à la maison donc une conférence, quoi, une visioconférence.
Habillé seulement en haut, c'est
exactement.
Ça. Exactement. Et en caleçon.
Voilà. Et le caleçon, je dirais, sous le bureau. Voilà, ce qui montre qu'on ne s'habille pas uniquement pour soi. Et on s'habille aussi pour les autres. Et on s'habille aussi à travers le regard des autres.
Alors on commence par ce morceau de tissu ou de papier qui a marqué la fin de l'année, la deuxième partie de l'année 2020, les fameux masques.
Rouge, noir, blanc ou à motif, le masque protège. Il est aussi devenu un accessoire de mode.
Je dois rester qui je suis malgré la situation. Vous savez que les masques chirurgicaux sont déprimants, mais quand vous sortez avec un masque élégant ou avec un accessoire comme celui-ci, on n'a pas l'impression d'être en situation de guerre. Cela semble plus amusant.
Il y a eu une grande pénurie de masques, vous savez. Nous avons alors pensé concevoir des masques qui peuvent être utilisés tous les jours sans avoir à les jeter. C'est ce qui a fait naître l'idée. Mais en même temps, vous voyez que les masques vont être une chose de tous les jours. Vous voulez porter des masques avec ce style.
En tant que créateur de mode, nous allons devoir intégrer à chaque tenue des masques de mode.
Si vous portez une robe de soirée, vous ne pouvez pas porter un masque blanc comme ça. C'est comme un joli collier ou des bijoux, les boucles d'oreilles. Ça fait partie de mode, ça fait partie de notre tenue.
Le masque, c'est intéressant, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on porte des masques, qu'on se mange la moitié du visage.
Oh non. D'abord, dans un pays comme le nôtre, en France et plus largement en Europe occidentale, essentiellement les femmes ont porté des masques à partir du XVIe siècle, entre essentiellement le XVIe et le XVIIe siècle, pour se protéger non pas des virus, mais pour se protéger des ardeurs du soleil. Car il fallait notamment que les dames de la bonne société, c'est-à-dire de l'aristocratie, de la grande noblesse, puissent se garder le plus longtemps possible un visage clair, une peau blanche.
Alors c'était un foulard qui recouvrait le visage?
Non, c'était un véritable masque bien plus épais de ceux que nous portons. Il couvrait essentiellement la moitié haute du visage, c'est-à-dire au-dessus des lèvres, le nez, autour des yeux et le front. Donc il recouvrait presque les trois quarts du visage. Ils étaient souvent faits en tissu foncé, parfois en velours, parfois en cuir. Donc un masque très épais, il ne fallait absolument pas que les rayons du soleil puissent donc frapper la peau blanche de ces dames.
Rien à voir avec le voile islamique.
Rien à voir, pas du tout, non.
Le masque, effectivement, on l'a porté donc il y a bien longtemps, mais c'est devenu un moyen quand même aujourd'hui de se protéger des virus, mais on l'a transformé aussi. On a dit il va falloir l'adapter, il va falloir montrer qu'on peut exprimer des goûts en portant le masque aujourd'hui, non ?
Oui, il y a eu tout de suite, je dirais, d'abord beaucoup de fabrication par des petites boutiques autour de nous. Il y a beaucoup de fabrication maison et je pense qu'on n'a jamais autant cousu en France à la maison que depuis la Seconde Guerre mondiale où il y avait des restrictions très fortes pour pouvoir acheter des vêtements. Il y avait également, je dirais, une pénurie de matières premières comme les tissus. Par conséquent, les Français et plus encore les Françaises cousaient beaucoup. Il fallait donc retailler, coudre, rafistoler les vêtements. Donc on s'est remis à coudre. Et puis il y a aussi, je dirais, la grande mode, on va dire celle de la haute couture, mais aussi celle du prêt-à-porter, entre guillemets, de luxe, qui s'est un petit peu emparée donc du phénomène nouveau du masque. À savoir, on a vu des grandes marques fabriquer leurs propres masques et on a vu également des créateurs de mode fabriquer le leur pour, on va dire, donner un autre visage que les masques bleus ou les masques blancs.
Vous vous souvenez au tout début, quand les masques sont arrivés, d'abord, on avait pénurie de masques
pénurie
au
de
premier
masques
confinement.
France, oui, bien sûr, oui.
On a réclamé des masques, puis après on a dit qu'on ne voulait plus les porter. Enfin bon, ça aussi, ça, c'est le paradoxe français. Mais on s'est aussi jeté sur des gants chirurgicaux pour se protéger. Et puis ils ont vite été abandonnés pour des raisons sanitaires. Les médecins ont dit que ça ne servait pas à grand-chose, qu'il valait mieux se laver les mains. Est-ce que l'histoire des gants est parallèle à l'histoire des masques dans l'histoire des vêtements et des accoutrements?
Effectivement, oui. Je pense qu'il y a en effet... je pense que le masque semble en quelque sorte suivre la même histoire que le gant. Le gant, par exemple, au XIIe, XIIIe siècle, servait essentiellement pour certains artisans. Je pense par exemple aux maréchaux ferrants, aux souffleurs de verre qui les utilisaient précisément pour se protéger les mains du feu. Et très vite, l'aristocratie au XVIe et XVIIe siècle, les femmes comme les hommes, donc des classes les plus hautes de la société, se sont emparées des gants pour protéger leurs mains, non pas du feu, mais à la fois, je dirais, des salissures, des brûlures du soleil, mais aussi c'était pour préserver la peau fine des mains et pour garder la blancheur et la longueur des doigts. Parce que l'aristocratie s'exprimait, je dirais, par son corps. Il fallait avoir une stature particulière qui s'exprimait par les coiffures, par la peau blanche, par le fait aussi que l'aristocratie ne marchait pas, elle marchait très peu, et par le fait qu'il fallait avoir par conséquent des mains protégées et montrer surtout par des gants très longs, avec des doigts très longs, qu'on avait des mains qui ne faisaient pas grand-chose.
Oui, c'est ça, qui ne faisait pas de travail
voilà,
manuel, évidemment.
Exactement. Et par conséquent, j'ai un peu l'impression que le masque de nos jours est en train, je dirais, de suivre peut-être pas la même histoire, mais disons un parcours assez proche, à savoir que c'est un accessoire vestimentaire qui est apparu pour se protéger des virus, mais très vite, on va dire, la mode a récupéré cet élément, cette pièce, pour en faire quelque chose d'autre.
Est-ce qu'il y a eu d'autres vêtements, morceaux de tissu dans l'histoire qui ont cherché non pas à se protéger du froid ou du soleil ou de la pluie, mais à se protéger des autres ?
Du danger de l'autre, oui. Alors, sans parler bien sûr de tout ce qui est les armures, etc. Mais par exemple, lorsqu'il y a eu les grandes épidémies de peste au XVIIe et au XVIIIe siècle, on avait tout de suite compris, je dirais que, voilà, certes, on était loin de la médecine du XXe siècle, mais on avait compris précisément comment une épidémie pouvait se répandre. Et nous avons à la fois des images et quelques exemples, malgré tout, parvenus jusqu'à nous, de combinaisons très épaisses que notamment les médecins ou que les croque-morts portaient, donc des combinaisons très longues et avec de véritables masques. Mais alors là, c'était véritablement, je dirais, quasiment des masques de scaphandriers.
Oui, ça pourrait faire penser aux combinaisons pour lutter contre la propagation du virus d'Ebola en Afrique.
Exactement, il y avait précisément donc, un énorme nez qui était en tissu et à l'intérieur de ce nez, on pouvait mettre des éponges ou des tissus qui étaient imbibés de vie nègre pour notamment tenter entre guillemets de faire une barrière au virus.
Au début de l'émission, Denis Brunat, vous nous disiez bon bah c'est vrai que notre époque avec le télétravail, on s'habille de moins en moins. Il y a eu toutes ces vidéos assez ironiques où on voyait des hommes à des réunions devant leur écran habillés seulement sur la moitié du corps. Il y a quand même un vêtement qui a fait vraiment son apparition dans la vie quotidienne des gens et pour cause, ceux qui restaient toute la journée à la maison, c'est le survêtement, le jogging, le truc informe, quoi.
Oui, il y a eu un retour de certaines pièces de vêtements. Alors le jogging ou le survêtement, c'est un vêtement qui a connu, je dirais, une histoire avec précisément donc, des inversions de son propre code, puisque c'est un vêtement qui est né dans le milieu sportif au début du XXe siècle.
Mais qui en fait ne corsette surtout pas le corps.
Qui ne corsette pas
du tout
le corps.
Qui permet le relâchement du corps.
Mais il y a eu par exemple d'autres vêtements qu'on a beaucoup portés pendant le premier confinement. Il y a eu à la fois le short, il y a eu le caleçon, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais il y a eu en effet donc, le survêtement et surtout n'oublions pas le pyjama. On a beaucoup porté de pyjamas, ou seulement le bas, ou seulement le haut. Et en effet, il y a un retour comme ça de ces vêtements qui sont devenus plutôt donc des vêtements d'intérieur que l'on porte dans son intimité. Et en effet, ces vêtements ont connu une nouvelle histoire parce que leur code s'est inversé au printemps passé.
Sauf que le jogging, depuis quelques années, il a la particularité, alors il y a la veste zippée, mais c'est souvent un sweat à capuche. Alors la capuche, si on est en télétravail, on ne va peut-être pas la mettre, mais elle pend derrière la tête, derrière la nuque, et elle est partout cette capuche maintenant.
Elle est partout, mais c'est quand même un vêtement qui a mauvaise presse. Oui. Je dirais la capuche a une traîne particulièrement 6 siècles de préjugés.
Six siècles. Moi, j'en étais restée aux Africains-Américains, puisqu'elle est devenue quand même aussi, par glissement, le vêtement des victimes des bavures policières aux États-Unis aussi.
Oui, c'est vrai, mais elle a été beaucoup interdite, notamment dans certaines villes des États-Unis, aussi bien dans le nord comme dans le sud. Elle a été interdite, la capuche, dans les collèges américains, mais aussi dans les collèges en France. Et en tout cas, je dirais, le plus ancien témoignage de mauvaise presse de la capuche, il est français, puisqu'il est de 1399, donc c'est pas si jeune que ça.
14e siècle,
et c'est le roi de France, Charles VI, qui interdit le port des capuches dans les rues de Paris, parce qu'il y avait des mauvais garçons, si on lit bien le texte, qui dissimulaient leur visage dans les capuches pour agresser les gens au coin des rues. Et puis on n'aime pas, par exemple, dans la culture occidentale, la dissimulation du visage. Et même dans les ouvrages du XVIIe siècle, c'est-à-dire des ouvrages qui imposaient donc l'étiquette, comment s'habiller dans la bonne société, dans la cour, on disait qu'il valait mieux porter un vêtement qui moule le corps. Et ça peut nous paraître surprenant, à savoir que ce vêtement va donc dévoiler les courbes et les contre-courbes les plus intimes du corps. Bref, on préférait un vêtement qui moule le corps à un vêtement qui soit ample et qui dissimule le corps. Et dans notre société, dans notre culture occidentale, pour des raisons qu'on a parfois du mal à expliquer, le vêtement trop ample, en tout cas le vêtement qui cache, passe très mal.
Le vêtement, en tout cas, parle, nous parle. Il y a eu une époque, Denis Brunat, pas si lointaine, où le mot cagoule était devenu tendance avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, une parodie de rap, Foot à cagoule. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire, gars, écoute ça, un conseil, fous ta cagoule. Voilà quelques extraits des Fatal Bazooka, un groupe de rap parodique emmené par Michael Youn. C'était en 2006 déjà. Je sais pas si le texte aurait fonctionné aussi bien avec bonnet ou capuche, mais c'est vrai que fous ta cagoule, ça sonne extraordinairement bien pour une parodie.
Oui, c'est vrai, c'est musical, il y a du rythme, oui, c'est sûr.
Bon, la cagoule.
Ma mère me disait quand j'étais petit, mais ta cagoule. Elle ne disait pas fou, mais elle disait mais ta cagoule, oui, c'est vrai.
Oui, une sorte effectivement d'étui qu'on glissait sur le visage, où il y avait juste la place pour que le visage apparaisse et tout le reste était caché, la tête, les oreilles et le cou. Direction tout de suite les États-Unis. Est-ce que la coupe de cheveux teint en blond de Donald Trump aurait pu laisser supposer qu'il allait lancer ses supporters à l'assaut du Capitole cette semaine? Je ne sais pas ce que vous êtes déjà interrogé sur le look de Donald Trump, vous-même en tant qu'historien, du vêtement.
Très classique. Vous savez qu'on a beaucoup lu, je dirais, sur ses cheveux, sa teinture, ses implants, etc. Mais il reste, je dirais, habillé d'une manière classique, comme la plupart, on va dire, des hommes qui sont obligés au quotidien de porter un costume sombre avec une chemise claire et une cravate qui marque précisément une rupture.
Oui. Les seuls codes, finalement, que Donald Trump respecte. Dans deux semaines, une nouvelle équipe à la tête des États-Unis et en numéro 2, une femme puissante.
Please welcome the Vice President-elect of the United States of America, Kamala Harris.
Good evening. Good evening. So, Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it.
Une phrase prémonitoire de la vice-présidente Kamala Harris au soir de la victoire de Joe Biden en novembre dernier. La démocratie, ce sont des actes jamais acquises. La démocratie, c'est un combat. Si elle avait su ce qui allait se passer au Capitole quelques semaines plus tard, au soir de sa victoire, en tout cas comme vice-présidente, je ne sais pas si vous vous souvenez, Denis Bruna, elle porte un tailleur blanc, un tailleur pantalon, bien sûr, avec un improbable chemisier en satin blanc. En fait, ce sont deux blancs différents qui forment un drôle de mélange. On est en Amérique, le soir d'une victoire politique. Évidemment, on n'est pas sur un podium de mode, hein, bien sûr. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce tailleur pantalon blanc? Le blanc, ça, il y a un symbole en politique du blanc?
Oui, mais il faut faire attention. On se souvient par exemple de la couleur blanche, notamment de la parka, de la doudoune blanche que Ségolène Royal avait portée sur la Grande Muraille de Chine et qui avait fait beaucoup de bruit, puisque tout dépend dans les civilisations dans lesquelles nous nous trouvons. Et en Chine, je crois qu'on lui avait beaucoup reproché à Ségolène Royal, parce que je crois que c'est la couleur du deuil.
Oui.
Voilà. Donc,
c'est le moment où elle parle de la bravitude. Hein.
Exactement. Oui. Et alors, en revanche, c'est vrai que pour nous, le blanc, c'est à la fois, je dirais, la liberté, la pureté. Mais ce qui m'a beaucoup interrogé, je dirais, sur le fameux tailleur pantalon que portait donc Madame Harris le soir de la victoire. D'abord, elle porte un pantalon. C'est enfin, je dirais, arrivé. Bon, ce n'est pas la première femme politique à porter un pantalon, mais il faut bien avoir à l'esprit que, je dirais, dans un pays comme le nôtre, en France, par exemple, le pantalon avait été interdit au 19e siècle et que les femmes qui voulaient en porter un, il fallait qu'elles demandent un permis de travestissement avec un appui d'un certificat médical.
Mmh. Et il a longtemps été prohibé à l'Assemblée nationale.
Il a longtemps été prohibé à l'Assemblée nationale pour les femmes. Il a fallu attendre la fin des années 1970, donc c'est quand même très tard. Et c'est vrai que dans le milieu politique, pour une femme, il est beaucoup plus difficile de s'habiller qu'un homme. Et le chemisier là, que vous évoquiez, la presse a rappelé précisément qu'il s'agissait peut-être d'un écho de ces chemisiers avec les grands nœuds, les grandes cravates que portait Margaret Thatcher à la fin des années 1980. La première ministre britannique qui avait dû également s'imposer, bien sûr, par ses vêtements, ses tailleurs, ses brochings. Bref, beaucoup de choses auxquelles les hommes ne pensent pas, du moins pensent peu.
Peut-être aussi qu'on a ce commentaire pour Kamala Harris qui a des positions relativement conservatrice. Vous restez avec nous, Denis Bruna, on regarde le vêtement autrement avec vous. Homme savant des habits qui font le moine aujourd'hui.
Dans la nuit froide,
7 milliards de voisins. On est bien sur RFI en compagnie de Denis Bruna, historien de la mode qui publie l'histoire des modes et du vêtement du Moyen-Âge au 21e siècle aux éditions textuelles. Et avec vous, Denis Bruna, on se paye le luxe de regarder les vêtements contemporains autrement, comme des symboles, comme des messages et pas seulement comme des deuxièmes peaux pour se protéger du froid, du soleil, du vent, de la pluie ou des autres. Évidemment, on a parlé des masques pour se protéger des autres. On vient d'entendre La Femme, c'est le dernier single du groupe de pop La Femme. En fait, ce sont des hommes qui s'associent régulièrement à des chanteuses. Et d'ailleurs, ils ont des looks comme beaucoup d'artistes. Mais alors, eux, ils ont vraiment des looks très travaillés. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Ils jouent beaucoup sur l'ambiguïté de genre, mi-déguisement, mi-travestissement. La mode a toujours aimé jouer sur les ambiguïtés de sexe.
Oh, jouer, je ne sais pas. Je veux dire, depuis de nombreux siècles, on a voulu véritablement séparer par le vêtement à la fois les classes sociales, les rangs, comme on disait, entre l'époque médiévale et le XVIIIe siècle, mais surtout les sexes. Même si parfois dans un pays comme le nôtre, en France par exemple, les hommes ont porté des robes au XIIe et XIIIe siècle, et il y avait une différence entre les robes des hommes et les robes des femmes. Les robes des femmes étaient un petit peu plus longues, plus colorées, celles des hommes s'arrêtaient à la cheville, mais il y a très souvent eu une différence. Et d'ailleurs, les femmes qui étaient tentées par le vêtement masculin et inversement les hommes qui étaient tentés par le vêtement féminin, ont souvent été repris parfois. On a conservé aux Archives nationales à Paris, je me souviens d'avoir consulté ce document, une femme à Paris qui avait été arrêtée dans la rue et qui avait dû payer une amende sur le champ parce qu'elle portait un chapeau de feutre. Et au XVIIe siècle, le chapeau de feutre était exclusivement réservé aux hommes.
En Argentine, cette fois, le foulard vert a porté bonheur aux Argentines. Pour tous les Argentins, que l'avortement soit légal, eh bien, c'est chose faite depuis décembre dernier, l'avortement légalisé. Les foulards verts, qui étaient la marque de fabrique des manifestantes, sont portés ces derniers temps sur la bouche comme masque anti-Covid. Mais c'est très impressionnant de voir ces manifestations avec une marée comme ça de tissus verts qui semblent presque cousus les uns entre les autres quand les gens défilent.
En effet, on le portait sur le visage, on le portait autour du cou, on le brandissait aussi lors des manifestations. On a vu également des jeunes femmes qui l'attachaient à leur poignet, à la bretelle de leur sac. Oui, oui, en effet, c'était un symbole, un vêtement, quoi, une pièce de vêtement intéressante aussi, parce que on se souvient aussi, par exemple, dans les années 1970, les fameuses mères de la place de Mai,
qui toujours en Argentine,
En Argentine, et qui réclamaient des nouvelles de leur enfant disparu pendant la dictature, portaient-elles des foulards blancs. Voilà, donc on récupère, donc il y a une seconde vie, plutôt une vie qui continue pour cette pièce de vêtement qui est le foulard avec une couleur différente. Alors je me suis renseigné en lisant la presse argentine et le vert a précisément été choisi par ces femmes, d'abord parce qu'elles n'avaient pas déjà été déterminées par d'autres groupes, et le vert a été donc choisi comme étant un symbole de la vie.
Les masques en France, on en a parlé tout à l'heure, les masques ont effacé les gilets jaunes, mais ce vaste mouvement de protestation sociale est encore largement redouté par les politiques. Hein. Personne ne peut oublier qu'un simple gilet de sécurité routière a mis le feu au pays. C'était en 2018, hein, donc presque hier, avec des images qui d'ailleurs, à l'époque, ont fait le tour du monde.
On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud, ça va motiver.
C'était le 24 octobre 2018, Guilain Coutard, un des porte-parole des Gilets jaunes, lançait dans une vidéo selfie cet appel pour un mouvement populaire. Il dit que le gilet jaune, c'est le symbole du danger sur la route, tout comme les consommateurs d'essence qui voient les prix du carburant flamber et donc qui met leur budget en danger. C'est comme ça qu'il avait expliqué cette idée de prendre ce gilet de sécurité routière. Ça vous a intrigué, hein, je sais.
Ah, beaucoup. Quand on est historien du vêtement, on s'intéresse bien sûr au code. Et là, il y a eu une nouvelle fois, donc une inversion du code. Alors, je ne retracerai pas l'histoire du gilet. L'histoire du gilet, par exemple, le gilet apparaît au XVIIe siècle et c'était un vêtement de cour, donc il y a 400 ans. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les vêtements que l'on utilise pendant les manifestations, les révoltes. Ce sont des vêtements quotidiens, ce sont des vêtements que tout le monde a, des vêtements qui ne sont pas cher, par conséquent, on peut les prendre, on peut les exhiber, donc ils deviennent très vite des symboles. Et plus encore, ce qui me paraît intéressant, c'est le fait que c'est lorsque le vêtement va donner le nom au mouvement. Donc il y a les gilets jaunes, il y a les foulards verts en Argentine, il y a les chemises jaunes en Thaïlande.
Et les chemises rouges. Oui.
Les chemises rouges aussi.
Anti-monarchie, anti-armée.
Exactement. Et puis si on remonte par exemple notre histoire, il y a les sans-culottes à la Révolution, c'est-à-dire donc les hommes qui portaient des pantalons longs, qui ne portaient pas la culotte aristocratique avec les bas. Il y a eu aussi les bonnets rouges en Bretagne au premier tiers du XVIIe siècle qui voulaient s'insurger contre un nouvel impôt sur le sel. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu les nouveaux bonnets rouges en 2013 contre des taxes, donc ils ont repris précisément ce symbole breton.
Des taxes contre les camions, hein, les routiers.
Les taxes poids lourds, exactement. Et peut-être que l'un des plus anciens en France, il y a eu les mouvements notamment des Jacques qui s'étaient précisément insurgés violemment contre le régime seigneurial. Et on pense que le nom de Jacques vient de la jaquette, c'est-à-dire la petite veste courte que portaient les hommes les plus simples de cette époque-là. Donc des vêtements qui, par leur force et par leur symbole, ont donné le nom à tous ces mouvements.
Denis Bruna, vous faites des allers-retours entre les siècles sur le vêtement, c'est toujours assez impressionnant. On entame en tout cas aujourd'hui, on a le sentiment, une grande cure d'austérité sociétale, économique, morale. Et pour le vêtement, on a l'impression quand même que la rigolade n'est plus de mise non plus. Parce que d'abord, les déplacements sont compliqués dans les villes, le vélo, la marche à pied. On a l'impression que le nouvel uniforme jean basket pour se déplacer avec plus de confort est omniprésent, le confort, la douceur aussi pour affronter un monde qui est perçu comme de plus en plus dur. Ça serait à remettre en contexte par rapport au Moyen-Âge, dont vous êtes spécialiste. Je ne sais pas si le monde est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'au Moyen-Âge, je ne suis pas certaine. Mais le vêtement du repli identitaire aussi, que vous inspire aujourd'hui notre époque, son influence sur le vêtement et vice-versa?
Oui, il y a un changement des codes vestimentaires. C'est vrai qu'on va vers... Est-ce qu'on va vers une uniformisation de la tenue? Je ne sais pas.
Une austérité.
Je pense que l'austérité, elle existe déjà depuis beaucoup de temps. En tout cas, la vêture masculine, comme on disait, est particulièrement austère depuis le début du 19e siècle. J'avais fait une exposition au musée décoratif qui s'appelait « Tenue correcte exigée ». Et pendant la préparation de cette exposition, dont je prenais le métro de chez moi pour aller travailler, et chaque jour, je me disais « Aujourd'hui, je regarde les pantalons, aujourd'hui, je regarde les vestes, sans faire véritablement de véritables... »
Vous avez des voyages animés. Mais en métro.
Un point, si on veut. Et je m'étais rendu compte une fois, j'avais regardé pendant 2-3 jours les manteaux, les vestes, etc. que portaient les hommes en hiver. Et c'était 8 cas sur 10, ils étaient noirs. Et dans les 20% restants, c'était soit du bleu marine, soit du marron, soit du gris. Voilà, en tout cas, je
comme
dirais...
Comme vous aujourd'hui, finalement, hein, Denis Brunard.
J'ai un manteau bleu marine, mais j'ai quand même un pantalon qui quand même marque
écossais,
une certaine
rouge.
Rupture.
Tout à fait.
Voilà. Donc je me permets un peu plus de couleurs.
Oui.
Parce que je peux, parce que voilà, je travaille dans un musée de mode, et je pense qu'il veut, si j'arrivais un jour habillé avec un costume gris anthracite, je marquerais un écart dans mon milieu.
Ah, vous seriez disruptif dans l'autre sens, dans votre milieu.
Dans mon métier.
Mais si vous arriviez dans une banque avec un pantalon écossais rouge.
Là, j'aurais eu beaucoup de mal. Je pense qu'on l'aurait fait remarquer, en effet.
Ouais. Les codes, encore et toujours, partout.
Toujours. Il faut bien avoir à l'esprit, même si on dit que justement les codes vestimentaires n'existent plus, ce qui est totalement faux, on s'habille en fonction de notre âge, de notre sexe, de notre milieu professionnel, de notre milieu social, de notre géographie et en fonction aussi des circonstances. On ne s'habille pas si l'on va travailler dans son bureau avec les autres que si on reste à la maison, chez soi, au chaud.
Chez soi, au chaud, le confort, la douceur, c'est devenu aussi quelque chose de plus en plus important pour le vêtement.
Oui, parce qu'on voit remonter les chiffres de vente de vêtements qui étaient un peu tombés en désuétude. Le jogging marchait déjà très bien, puisque c'est devenu un vêtement depuis les années 1970, depuis surtout 1980, un vêtement que l'on ne porte plus uniquement sur le terrain sportif. Mais il y a eu, en lisant un petit peu la presse, donc un sursaut dans les ventes de pyjamas. Donc en effet, des vêtements beaucoup plus souples, confortable pour rester dans son intimité. Ouais.
Et puis il y a toute une génération qui ne supportera plus à l'avenir d'avoir le pied emprisonné dans un soulier de cuir, hein, qui a grandi avec les semelles élastiques des baskets. Hein.
Oui, et puis qui a grandi également avec des t-shirts et une génération qui ne connaît pas l'école des chemises qui se ferme pour mettre une cravate. En effet, oui, c'est beaucoup plus difficile.
C'est ça, qui a grandi avec des textures qui épousent les mouvements du corps et qui obéissent aux mouvements du corps.
Qui obéissent aux mouvements du corps, alors que beaucoup de vêtements dans notre histoire étaient précisément des vêtements qui se devaient en quelque sorte corseter le corps. Parce que quand on parle du vêtement, c'est une chose, mais il faut aussi surtout parler du corps. Et le maintien est essentiel. Et pendant des siècles, les classes les plus hautes de la société devaient être droites, rigides, et le vêtement était corseté. La fraise, par exemple, qu'on apportait au XVIe, au XVIIe siècle, la fraise était précisément pour rendre la tête haute, le cou droit et ne pas bouger. C'est-à-dire que moins on bougeait, plus on était haut dans la hiérarchie sociale.
Merci Denis Brunat, historien de la mode, conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Merci de nous avoir fait voyager à travers les siècles. Vous avez publié plus de 500 pages, Histoire des modes et du vêtement chez Textuel. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission?
Oui. Avec plaisir, mais je voulais préciser, donc c'est Histoire des modes et du vêtement avec Chloé Demey.
Oui. Voilà. Du Moyen-Âge au 21e siècle.
Merci.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On parle de plus en plus de recyclage, y compris pour la mode hein, d'ailleurs. C'est devenu un sujet omniprésent pour que la mode ne soit plus jetable. La fast fashion, il faut en finir avec ça. Le vêtement doit s'afficher plus vertueux, mais l'urgence aujourd'hui, c'est quand même de faire quelque chose pour les millions et les millions de masques jetables. Reportage dans quelques instants auprès de deux start-up qui s'en préoccupent. Ça sera juste après Busty and the Bass et Anna Magidson.
Je t'avais dit encore, j'ai pas envie de... J'en peux plus te suivre dans ton bel. J'en peux plus te suivre quand tu dis toujours un peu ma faute. D'un coup je suis facile, mais laisse-moi respirer. Si tu pouvais enfin donner ce que tu promets, baby juste un moment, stop de jouer. Si t'as peur de tomber, oublie, rien ne peut m'étonner. Si, je préfère quand tu le sais. Savais adège-moi là. Ça ne tient que toi, juste adège-moi là. T'inquiète, je vais m'en remettre si c'est comme ça, adège-moi là. Ça ne tient que toi, juste adège-moi là. I can get it if you're looking for something I don't got. I know you'd rather let it be. Drop the ball and hope I make the call. But those signs are just a waste of me. See, I won't read into shit you could just say to me. Just say to me. And maybe you're just stuck in a belief or something. Maybe you think life should always ride out just the way you want it. Ooh, don't forget we're all just trying to get by. Maybe you could help me out this time. Maybe just this time.
Je suis à plus de l'air. Dis-moi si tu t'aimes plus que moi. Je vais le savoir tôt ou tard. Dis-le, fais tomber le masque. Sois plus fort. Dis-moi plutôt, je m'en vais. T'inquiète, j'ai la recette. Si c'est comme ça, déjà là.
Sept milliards de voisins, reportage à présent. On les retrouve désormais partout, des trottoirs au fond des océans, avec l'extension de l'obligation du port du masque presque partout dans le monde. La question du recyclage se pose pour lutter contre cette nouvelle forme de pollution. Ces protections à usage unique produisent d'importants rebuts toxiques. À l'échelle française, l'association Zero Waste estime qu'une consommation de 2 masques jetables par personne et par jour représenterait environ 400 tonnes de déchets plastiques quotidiennement. C'est pourquoi 2 startups ont décidé de collaborer. GobUse, qui travaille d'habitude au recyclage des gobelets en plastique, et Fabric, qui transforme du textile en briques d'architecture. Depuis septembre, ces 2 startups travaillent sur une phase de prototype pour récupérer les masques et leur donner une seconde vie. Reportage dans le 19e arrondissement de Paris, où Raphaël Constant a rencontré Clarisse Merlet et Mathieu Lucassi, 2 jeunes entrepreneurs qui ont décidé d'attaquer le déchet à la source.
Alors ici, on est chez Fabric, qui est dans la partie usine, là où on transforme le textile en briques. Ici, on reçoit le textile trié par couleur. Donc là, vous pouvez voir tout le blanc. Là, il y a le multicolore et ensuite, il y a la partie jean. Là, il y a Valentin qui est en train d'ouvrir une balle. Et ensuite, il va les broyer dans le broyeur en 20 mm pour ensuite faire les briques que vous voyez ici.
Et donc, depuis peu, vous participez à une initiative au recyclage des masques jetables en France.
Oui, c'est ça. En fait, je connaissais Mathieu, parce qu'on a été lauréat du même concours. Et cet été, il m'a proposé de faire un test pour recycler les masques. Donc au début, je pensais que ça n'allait pas du tout marcher, parce que c'est du plastique. Puis finalement, j'ai accepté et on a essayé en mélangeant donc les masques au tissu. Et ça marchait assez bien. Il faut quand même mettre plus de tissu que de masques, parce que les masques sont vraiment trop plastiques. Et ça ne résisterait pas bien au feu dans un établissement recevant du public, par exemple. Pour mettre des matériaux 100% plastique, ce n'est pas possible. Donc on a pris le parti de mettre 80% de textile et 20% de masques. Et là, en ce moment, on a sorti les premiers prototypes. Ça se tire assez bien. On a réalisé le premier mobilier donc en masque et textile et c'est assez joli.
Est-ce que vous pouvez montrer justement comment vous faites ? Où sont recyclés les masques ?
Les masques, pour le moment, on n'en a pas beaucoup parce que c'est vraiment en test. Donc ils sont rangés dans l'étagère ici parce qu'en fait, on a testé avec Mathieu soit de les broyer encore entiers. Et donc là, on vient de recevoir encore une nouvelle version. Donc c'est du masque déjà broyé. Et ça, on n'a pas encore testé les briques avec cette matière. Vas-y, c'est bon. Les masques sont broyés ici, ils tombent là. Et ensuite, ils sont aspirés dans cette et retombent dans cette cuve ici. Et une fois qu'on voit sur le témoin jaune que c'est rempli jusqu'au dernier rond, là, on peut venir prendre la cuve et venir la transformer dans les machines.
Et alors cette phase de test que vous êtes en train de mener avec les masques, qu'est-ce que vous en attendez ?
On a essayé 2 formes de briques différentes, donc les plates pour faire du parement ou les grosses pour faire le premier mobilier qu'on a réalisé. Qu'est-ce qu'on en attend ? En fait, au début, je n'avais pas très envie d'essayer parce qu'on n'avait pas besoin d'une nouvelle ressource. Les textiles, c'est déjà énorme, la ressource qu'il y a. Et puis finalement, je me suis dit, si dans 10 ans, on porte encore des masques et qu'on est complètement pollué par ces masques-là, je regretterais de ne pas avoir essayé.
Pour vous, en quoi justement c'est une solution à la pollution des masques ?
Bah, si on arrive à trouver un moyen de les recycler déjà, avant que ça devienne trop une pollution et trop un déchet, on le voit déjà dans les rues, par terre, etc. Mais c'est en train de se mettre en place. Moi, je trouve que ça va même assez vite, parce que j'ai vu d'autres initiatives pour recycler les masques. Et je trouve ça chouette que maintenant, on pense tout de suite recyclage dès qu'il y a une matière qui arrive en quantité comme ça. Donc si on peut déjà trouver un débouché maintenant, c'est pas mal de pouvoir participer à ça.
Alors vous avez donc construit un premier meuble, Clarisse, grâce au mélange de masques et de tissus.
Oui, alors c'est un fab table, on l'appelle comme ça chez Fabrique. C'est un tabouret ou une petite table, ça fait 40 cm de haut.
Et donc juste devant nous.
Voilà, vous pouvez le voir ici. On l'a mélangé à du textile blanc, comme ça, ça fait ressortir le bleu du masque.
On voit bien les morceaux du masque. Oui. Il y a par exemple le morceau de la visière qui tient l'embout métallique.
Oui, c'est ça. Pour sensibiliser au recyclage du masque, c'est pas mal parce que du coup, effectivement, on reconnaît tout de suite. Et sur le dessus, on vient mettre une planche de bois pour pouvoir s'asseoir directement.
Pour se rendre compte, Clarisse, combien de masques il vous faut pour fabriquer un mobilier ?
Donc il faut 35 masques par brique et il y a une quarantaine de briques par mobilier, donc ça fait 1400 masques pour ce FabTable en tout cas. En fait, actuellement, Mathieu me les emmène dans des sacs où il y en a 3000, donc on peut faire deux FabTables avec un sac. Et le problème, c'est qu'il pourrait m'en emmener tous les jours ou énormément par semaine, mais nous, on n'a pas encore de quoi trop stocker. Et à l'avenir, on aimerait délocaliser la fabrication des FabTables et puis les faire ici directement à l'atelier pour pouvoir en faire plus par semaine. Donc ça me paraît pas compliqué, 1400 masques par meuble, parce que finalement il y a tellement de masques à recycler que ça va aller très vite.
Mathieu, vous avez lancé une initiative, le recyclage des masques. Comment ça fonctionne ?
Voilà, l'activité de Gobius, c'est surtout d'identifier des débouchés clairs pour créer des économies circulaires à partir des déchets des professionnels. Donc à partir de là, étant donné que l'utilisation des masques est arrivée largement et massivement dans l'environnement quotidien, mais aussi dans le milieu professionnel, la question du recyclage s'est posée rapidement. Après, nous, notre vocation, c'est pas du tout d'être un espèce de centre de tri ou de recyclage, mais c'est vraiment de proposer des projets d'économie circulaire. Donc dans ça, c'était important d'avoir le débouché avant d'avoir le circuit de collecte.
Vous parlez justement de la fabrication accrue des masques qui est arrivée d'un coup cet été et qui justement au niveau environnemental met beaucoup de pression sur l'énergie et l'eau, en plus de puiser du pétrole, parce que ces masques même sont fabriqués dans une matière qui s'appelle le propylène, qui est un dérivé du pétrole, et donc ils se dégradent pas facilement dans l'environnement et ils vont disséminer des microplastiques dans la nature.
Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter une solution, une réponse à un besoin et du coup à une pollution qui est naissante encore aujourd'hui, mais qui est déjà très très importante.
Alors racontez-nous, Mathieu, comment ça fonctionne, ce recyclage, cette collecte ? Est-ce qu'il y a un protocole sanitaire aussi qui est mis en place ?
Comment est-ce qu'on fonctionne ? On a mis en point une borne qui nous permet de collecter les masques. Alors cette borne, elle est en carton recyclable, en différents points de collecte, à l'intérieur duquel on a ce qu'on appelle un sac, qui est spécial, qui nous permet en fait de faire passer directement le contenu, donc les masques, dans la machine pour la désinfection. Et ça, c'est assez important parce que pour nos opérateurs qui vont venir avoir cette action de collecte de ces bornes qui récupèrent les masques, c'est important en fait qu'on puisse, nous, on puisse leur assurer une protection qui soit maximale. Donc eux, ils sont déjà équipés avec des gants, avec du masque, avec des gels hydroalcooliques, avec des manchons aussi pour pouvoir avoir une action de collecte. Eux n'ont aucune manipulation directe des masques.
Tout d'abord, où est-ce qu'on peut trouver ces bornes ?
Très largement en Île-de-France, beaucoup dans des magasins U. Aujourd'hui, il y en a à peu près 50 qui sont équipés.
Des supermarchés.
Et ensuite, ce sont des bornes et des points de collecte qu'on va retrouver en mairie. Et de plus en plus d'entreprises s'équipent en bornes de collecte parce que la problématique de l'environnement, elle touche de plus en plus d'entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de recycler les masques qui sont utilisés par leurs collaborateurs, mais il y a une très très forte volonté, une très très forte demande des entreprises sur ce sujet-là. Ça montre et ça traduit, parce que ça fait quand même déjà 4-5 ans qu'on a du recul sur le recyclage des déchets, qu'il y a un véritable changement d'un point de vue mentalité à ce niveau-là. Et c'est très important.
Donc pour bien comprendre, il y a différentes étapes de désinfection et de tri des masques qui sont effectuées par des travailleurs d'un ESAT, donc un établissement et service d'aide par le travail. Retire les ficelles qui sont sur les côtés, qui permettent d'attacher aux oreilles, et la barre métallique du masque pour finalement envoyer à la start-up fabrique avec laquelle vous êtes en collaboration uniquement le matériau plastique du masque.
La manipulation des masques se fait qu'une fois que les masques sont désinfectés. Alors la désinfection est très très simple. Nous, on suit les recommandations de l'INSERM sur un lavage à 95 degrés, sur un cycle qui nous permet de tuer et éliminer 100% du virus. Et ensuite, derrière, une fois que le masque est désinfecté, c'est là qu'il y a cette action de tri, de conditionnement en fait, de ces masques-là. Ce qui est très important aussi à signaler, c'est qu'on a la capacité, sur le même procédé, de collecter les masques et de traiter les masques jetables quand les masques sont réutilisables.
Est-ce que les bandes de collecte sont payantes? Est-ce que les entreprises auxquelles vous les fournissez payent une taxe ou une location?
Pour une entreprise, ça coûte aux alentours de 180 euros par mois. Notre business model, il repose surtout sur la participation de l'entreprise cliente sur l'ensemble de la chaîne de création et du projet d'économie circulaire. C'est-à-dire que, par exemple, avec un magasin U, on collecte aujourd'hui des masques. Demain, c'est pour pouvoir équiper tous les magasins en mobilier utile dans le magasin, fait à partir des masques.
Et alors, combien de masques vous avez déjà récolté?
Aujourd'hui, on en est à 75 000. Bien entendu, c'est un modèle qui peut s'étendre parce que le modèle, il est créé pour pouvoir s'étendre. Ensuite, ce qu'on espère quand même, c'est qu'on en finisse avec les masques.
Alors, Denis Bruna, vous allez recycler vos masques. Ça vous a convaincu ?
Convaincu, oui, en effet, c'est très intéressant. En effet, vous savez, quand on voit tous ces masques jetables, on s'aperçoit que c'est une pièce de vêtement qui vient désormais grossir la liste de tous ces vêtements que l'on prend, que l'on jette très vite. C'est la fameuse fast fashion. Et c'est vrai que ça nous fait réfléchir, car il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, notamment dans les classes populaires, les classes modestes, on achetait très peu de vêtements et on achetait des vêtements pour qu'ils durent. On passait par exemple les vêtements des frères et sœurs, comme ça, je dirais aux plus petits. Quand on achetait un manteau, quand on avait 18 ou 20 ans, il fallait quasiment qu'il fasse presque toute votre vie. Les chaussures aussi, les chaussures coûtaient horriblement cher. Et c'est vrai qu'on a changé avec précisément la fabrication.
La baisse des prix, surtout.
La baisse des prix aussi, bien sûr. Notamment la main-d'œuvre bon marché dans les quatre coins du monde, qui a, comme vous le dites, entraîner donc la baisse des prix, donc des vêtements qui ne sont pas chers. Et par conséquent, on a cru bon en acheter beaucoup, à les jeter, à ne pas les recycler. Et le masque, je pourrais dire, hélas, vient donc grossir cette longue liste de vêtements que l'on achète et que l'on ne recycle presque plus.
J'espère qu'en tout cas, ça va nous donner de bonnes idées. GobUse prévoit de récolter entre 1,5 million et 2,5 millions de masques sur les deux premiers trimestres de l'année et jusqu'à 5 millions fin 2021. Et de son côté, une fois les tests validés, Fabrique pense à commercialiser son premier mobilier, le FabTab, en tissu et masque recyclé, qui coûtera un peu moins de 300 euros. Donc, ça sera un meuble. Merci en tout cas à vous, Denis Bruna, historien de la mode, conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Ça ne doit pas être simple de vivre dans un musée fermé au public, hein.
C'est pas simple, mais c'est surtout très triste parce que toute l'équipe du musée travaille bien évidemment sur les œuvres, parce que notre première mission en tant que conservateur, c'est de conserver les œuvres pour les générations futures. Mais aussi, donc, on les présente, on les expose, et là, malheureusement, c'est un musée vide. Et on espère en tout cas retrouver notre public le plus vite possible.
Et le vêtement fait partie de notre mémoire collective à nous tous. Vous avez publié plus de 500 pages, Histoire des modes et du vêtement chez Textuel. C'est un très très beau livre avec Chloé Demey. Merci à vous, Denis
Bruna. Merci beaucoup. Merci.
Lundi, 7 milliards de voisins, les dialogues impossibles. Comment se parler quand la communication est cassée? Désaccords, mésententes, incompréhensions, conflits. Qui n'a jamais connu cette frustration de ne pas pouvoir exprimer ses idées ou ses sentiments, que ce soit en famille, entre amis, en couple, mais aussi en société, à l'école, à l'hôpital, dans la rue? On a l'impression que c'est de plus en plus difficile de se parler. Alors comment renouer le dialogue? Comment réussir à communiquer quand on est en conflit? À quoi servent les techniques de médiation? On attend vos témoignages si vous vous sentez bloqué pour parler à l'autre. Un conflit entre voisins, par exemple, qui s'est enkysté. Vous nous appelez surtout dès maintenant pour participer à l'émission 33 7 64 45 51 41. Et on se parle lundi avec bien sûr toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Et vous réécoutez d'ici là toutes nos émissions en podcast à la demande.
7 milliards de voisins, c'est fini.